Alors, c'est le dimanche des rameaux. Une semaine avant la Pâque, je vais vous demander de... On va essayer de se mettre dans la peau des gens de l'époque, à l'approche de la Pâque. Et on va voir plusieurs textes. J'ai même des photos de l'époque. Photos inédites, ouais. Alors, quelqu'un peut nous lire ce texte-là? Fort. Quelqu'un qui a une bonne voix, là. Jean-Pierre. Peux-tu lire, Jean-Pierre? Alors, ça faisait 3 ans à peu près que Jésus parcourait le pays. Et puis là, on sent la tension qui monte, hein? Et, bon. OK. Tu peux l'avancer toi-même, peut-être? Alors, ça, c'est le... Oui, une photo de l'époque. Ça, c'est la... On est à Jérusalem. Ça, c'est la montagne en face. Il y a le jardin des Oliviers qui est là. Et puis, derrière la montagne, il y a Béthanie. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Alors, il est en route vers Jérusalem. Il s'arrête à Béthanie, où il avait déjà ressuscité Lazare. Et dans Jean 12:9, la foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et il est en train de se passer de quoi, n'est-ce pas? Il y a une foule nombreuse ailleurs, on dit une grande multitude. Il y a des gens qui suivaient Jésus, qui étaient... ils espéraient qu'il entre à Jérusalem. Et on voit un petit peu pour... documenter un petit peu l'atmosphère, là. Les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare. Alors, à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Il y avait comme une rivalité entre Jésus et les chefs religieux de l'époque. Et parmi le peuple, alors qu'ils écoutaient, il ajoutait une parabole. Jésus ajoutait une parabole. Ça, c'est dans Luc. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il y avait comme une attente dans l'air, il y avait comme une... il allait se passer de quoi, hein? Et puis là, il parle de la parabole du roi qui est allé se faire couronner pour recevoir la royauté, mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » J'ai trouvé dans les archives du Jérusalem Post un article du journal. On s'imagine si ça avait existé à l'époque, là. Non, chérie, c'est pas vrai. OK. Affrontement inévitable. Nous sommes 6 jours avant la Pâque et Jésus est aux portes de Jérusalem. Il serait à Béthanie avec ses nombreux partisans, dont un certain Lazare. Plusieurs témoins affirment que Jésus aurait ressuscité Lazare d'entre les morts après qu'il eût passé 4 jours dans le tombeau. Une foule nombreuse est aussi venue constater le miracle de leurs propres yeux et beaucoup croient que l'apparition du royaume de Dieu est imminente. Jésus osera-t-il entrer dans Jérusalem? Malgré la forte opposition du Sanhédrin, Jésus se proclamera-t-il roi, le Messie tant attendu? Déploiera-t-il toute sa puissance pour établir son règne? La tension est à son comble dans une Jérusalem bondée pour la célébration de la Pâque dans une semaine. De plus en plus de gens se détournent des chefs des prêtres pour croire en Jésus à cause de la résurrection de Lazare. Je pense que ça résume bien l'atmosphère de l'époque, hein? On croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Jésus est à quelques kilomètres derrière la montagne, derrière le mont 3-4 kilomètres de là. Il y a une foule immense qui est derrière lui. Il y a une foule à Jérusalem qui va entendre qu'il est à Béthanie, qui va vouloir aller le rencontrer aussi. Et il est sur le point de prendre le pouvoir. Il est sur le point de renverser Rome, la puissance de Rome, et puis d'étendre son royaume, enfin, le royaume tant attendu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? C'est la question qu'on a vue tantôt. Hein? Il entre, il décide d'entrer à Jérusalem. Que veut dire Hosanna? J'ai mis en parenthèse. Ouais. C'était comme une imploration, une supplication. Hein? Sauve, nous t'en prions. Sauve, nous t'en supplions. C'est ce que ça veut dire, Hosanna. Alors ça, c'est le cri qui retentissait partout dans Jérusalem, des milliers de personnes qui étaient dans cette foule-là, qui criaient « Hosanna, sauve, 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 nous t'en prions, nous t'en supplions, sauve-nous ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour célébrer cette entrée-là à Jérusalem? Oui, des rameaux et des vêtements. Ils ont jeté les vêtements. Ils ont étendu le vêtement sur le terrain en criant. Alors, c'était quoi l'idée d'étendre le vêtement sur le terrain? Hein? Comme un tapis rouge, je pense que c'était une bonne idée. Ouais, juste là, dans Deux Rois. Mais ça, c'est l'autre. Ça, c'est l'âme. Mais il y en a une sur le vêtement. Ainsi parle l'Éternel. Je te donne l'onction comme un roi sur Israël. Là, il parle de Jéhu. Lorsque Jéhu a été oint comme un roi d'Israël, ils se hâtèrent alors de prendre chacun son vêtement qu'ils mirent sous Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent du cor et dirent « Jéhu est roi ». Alors, c'est comme un geste de reconnaissance. Hein? On est en train de reconnaître que Jéhu est le roi. Alors, les gens qui mettaient leur manteau devant Jésus, c'est un geste d'allégeance. Hein? Nous reconnaissons que cette personne-là, c'est le roi promis, c'est le roi qui s'en vient. C'est ce que ça voulait dire, un tapis rouge, comme tu disais, hein? Comme une allée royale. Là. On met nos vêtements devant Jésus. Les palmes, c'était à l'occasion de la fête des d'haricots, la Sukkot, là. Ils coupaient des palmes aussi. Alors, c'est un geste de célébration, c'est un geste de joie. Hein? Et là, c'est l'anneau. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus s'assoit sur un anneau? On a une idée?
Zacharie 9, il est là.
Ouais. Ben, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Un cheval. Un cheval. Ouais. Je connaissais pas l'histoire d'un conquérant ou un roi qui monte sur un âne et un ânon en plus. Hein, c'est un ânon sauvage. Il n'y a jamais personne qui a monté dessus.
Oui.
Alors, vous imaginez monter sur un âne sauvage? C'est un miracle, là. Jésus est le maître de la nature. Il a déjà apaisé la tempête. Puis là, il monte sur un âne et il ne semble pas que ça a causé trop de... En pleine foule, en plus, alors. Il y avait quelque chose là. Mais l'idée, c'est qu'au lieu d'arriver en conquérant avec toute son armure de guerre, il y a un message là-dedans. Jésus, hein, comme Zacharie 9. Quelqu'un veut lire Zacharie 9 en bois, en blanc? Alors, les Juifs connaissaient cette prophétie-là dans Zacharie, et le contexte, c'est, au lieu d'arriver en conquérant avec des armes, des chars, puis on envahit une invasion de la Palestine avec de la guerre, il arrive sur un ânon. Qu'est-ce que ça projette comme image? La grâce, la paix, l'humilité, la douceur.
Que le roi est proche de nous.
Le roi est proche de nous, au milieu du peuple. Ouais, le serviteur, le Messie, le roi, serviteur. avec toute cette image-là de, hein, il est humble et monté sur un âne. Il est plein de douceur.
Ah! Mais il y a peut-être, quand Paul dit dans 2 Corinthiens,
ouais,
nous renversons les ouais,
les raisonnements contre la vérité, contre l'Évangile.
Il y a peut-être un lien
ouais,
que okay, Jésus, dans son
il venait renverser les forteresses. Parce que Jérusalem est une ville fortifiée. Et là, il y avait comme une invasion là, à Jérusalem. Il envahissait Jérusalem, mais pas avec des tanks, pas avec des chars d'assaut, pas avec des armes. Il envahissait Jérusalem avec la paix, un message de paix. Oui? C'est bien? Alors, quelque chose de... Un message, hein? C'est une, comme une parabole en soi. C'est comme un message en soi de voir Jésus. Ça décrit le portrait du roi qu'il est. Alors, il y a un mouvement de foule. On attend Jésus. Quelle est la réaction de Jésus? C'est vraiment un contraste, hein? Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Ah, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix ou ce qui te donnerait ta paix, si seulement tu avais compris, Jérusalem, c'est qui je suis et ce que je suis en train d'apporter. Hein? » Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Et verset 44, il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Son cœur est attristé parce qu'ils sont venus si proches du salut. N'est-ce pas? Ils ont passé à un cheveu du salut. Est-ce que vous connaissez des personnes qui... comme ça, sont à un cheveu du salut, ils ont passé à un cheveu du salut. Est-ce qu'on connaît des personnes comme ça? Ils ont été intéressés à l'Évangile pour un certain temps. Et puis, ils ont pour la même foule qui criait « Hosanna, sauve Seigneur, délivre-nous », si on peut dire. Ils allaient crier quelques heures plus tard, crucifie-le. Alors, il y a des gens comme ça qui sont attirés par le Seigneur et qui, malheureusement, ne le reconnaissent pas. Et c'est triste, ça fend le cœur de voir des gens qui sont venus si proches du salut. Comment ils ont fait pour ne pas reconnaître Jésus-Christ? Dans la foule qui suivait Jésus, est-ce qu'on peut s'imaginer quelle sorte de personnes qu'il y avait dans la foule? Des curieux, oui, des gens qui, hey, c'était l'attraction, là, hein? Va-t-il se sauver lui-même, c'est une question aussi. Est-ce qu'il y en a qui en voulaient sa vie? Hein? Il y en a dans la foule là, qui voulaient le tuer. Il y en a qui l'ont guéri, il y en a qui avaient été guéri, il y en a même qui avaient été ressuscité. Lazare était ressuscité. Ouais. Ben oui, il y avait la preuve, là. Hein? On a besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Autre chose? Alors, des curieux. Oui, ses disciples étaient là. Ses apôtres étaient là. Et qu'est-ce que ses disciples allaient faire? Quelques heures plus tard. Tous. Dormir. L'abandonner. L'abandonner. Hein? L'abandonner. Il y en a un qui l'a renié, l'autre l'a trahi. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui a été fidèle. Ça en dit long sur la fidélité humaine, n'est-ce pas? Pour moi, la dimanche des rameaux, la cette procession-là, cette entrée à Jérusalem, ça part de l'échec de la fidélité humaine. Et en contraste, la grâce immense de Dieu. Hein? Jésus est venu sauver les infidèles. Jésus est mort pour des infidèles. Ses propres amis, ses apôtres, n'ont pas été fidèles. Jésus est mort pour des infidèles. Comment ça se fait que c'est si difficile de croire? Ouais, c'est pas dans la nature humaine. Ça prend un miracle de Dieu. Et une fois qu'on a reconnu que Jésus est le Messie, continuer à être fidèle, c'est pas évident. Et les personnes qui sont ici, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui suivent le Seigneur, ce sont des héros. Dans la société où on vit présentement, de continuer à croire en Jésus-Christ, hein? On lève notre chapeau. Et les siens n'ont pas reçu. Ouais. Et les siens, hein? C'est les gens qui étaient le plus proches, qui avaient reçu la révélation de Dieu. C'est les gens qui auraient dû savoir. Et ceux-là ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas suivi. Puis même, tu penses à ces apôtres qui ont été là pendant 3 ans et demi, ils ont vu tous les miracles, ils ont vu toute la puissance de Dieu à l'œuvre. Et c'est vraiment l'échec de la foi dans le sens de la fidélité. Et en même temps, en contraste à ça, la puissance de Dieu qui sauve les infidèles. Combien de fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous autres, mais combien de fois j'ai dit, j'ai-tu été stupide de ne pas faire confiance à Dieu? Je m'en suis-tu inquiété un coup? Pour rien. Pour rien. Hein? La difficulté de faire confiance au Seigneur, même après 44 ans. Hein? Croire, c'est encore un exploit. C'est encore un défi, c'est encore un miracle, croire en Dieu. Dans le sens de faire confiance à Dieu, d'avoir confiance que Dieu est dans ma vie, puis que Dieu est en train de faire quelque chose, même si j'ai l'impression qu'il a perdu le contrôle, j'ai l'impression qu'il répond pas à mes prières, j'ai l'impression qu'il... sentiment d'être abandonné, hein? Le Seigneur, il a crié. On connaît le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. C'est beau. Mais il y a le psaume 22, hein? Ça dit quoi le psaume 22, Élise? Non, tu sais que t'es là le mercredi. OK, mais moi je vais te dire. Excuse-moi. Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le psaume 22. Juste avant le psaume 23. Ça m'a frappé dans ma lecture. Wow! D'un côté, il est dans la désolation. Il crie à Dieu. Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Et ça fait tellement mal que même Jésus exprime ce sentiment d'abandon-là à la croix. Pourtant, il sait très bien qu'il est le bon berger. La difficulté de faire confiance quand ça fait mal, là. La difficulté de faire confiance, de croire en Dieu dans la détresse, ça prend un miracle. Ça prend un miracle. Et c'est ce miracle-là que nous faisons lorsqu'on vient au Seigneur. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, on a foi en Jésus, mais il a fallu qu'ils changent leur Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas le bon Jésus. Ils n'avaient pas la bonne définition, la bonne image, la bonne idée de Jésus-Christ. Et Jésus, à travers son ministère, il y avait quelque chose qui l'étonnait. Hein? C'était surprenant pour lui. Comment ça se fait que vous n'avez pas la foi? Comment ça se fait? Hein? Il s'étonna de leur incrédulité. Dans la barque, il dit, où est votre foi? Hein? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, là, comme, sur le bout de la... Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera impossible. Ça n'en prend pas beaucoup. Un petit grain de moutarde. Où elle est notre foi? Où elle est notre foi? Est-ce qu'on croit de cette foi-là comme un grain de moutarde qui déplace les montagnes? On a-tu ça encore? Et dans Luc 18, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Jésus est là au milieu d'eux, et il semble que même dans ses disciples les plus proches, on a de la misère à croire. Heureusement, il y a une place qui répare toutes les autres. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Jésus, en admiration, devint un non-juif. Hein? Se tournant vers la foule qu'il suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que j'ai de la foi? Est-ce que je suis fidèle au Seigneur? Jusqu'à quel point je suis fidèle au Seigneur? Heureusement, on n'est pas tout seul. Qu'est-ce que je peux faire à mon manque de foi? Comment est-ce que je peux réagir? Comment je réagis à mon manque de foi? Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Hein? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, OK, je prends la décision. Hein? Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je pense que c'est un cri qu'on peut lancer au Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et à un autre moment, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'était quoi le défi? Qu'est-ce qu'ils n'étaient pas capables de faire?
Pardonner.
Pardonner, c'est foi. Hein? Dans le jour. Et ailleurs, il dit 70 fois cette fois. Alors, les disciples, quand ils ont entendu qu'il fallait pardonner, pour eux autres, c'était impossible. Humainement, là, c'était quelque chose qui était pas faisable. Et ils ont crié, Seigneur, augmente-nous la foi qu'on soit capable de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et encore, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi, plante-toi, et il vous obéirait. Wow! Alors, ça parle d'un côté de la petitesse de notre foi, puis que ça n'en prend pas beaucoup, pour qu'on voit des choses se produire dans nos vies. Et lorsque on a placé notre foi dans le Seigneur, puis on voit se produire la chose qu'on a demandée, on dit, incroyable! Hein? C'est un miracle. Un miracle. On a une belle promesse. Jésus savait très bien que Pierre allait le renier, n'est-ce pas? Il lui avait prédit qu'il allait le renier. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour encourager Pierre? Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Vous allez être brassé. Hein? Dans votre foi, vous allez être ébranlé dans votre foi. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et puis quand tu vas revenir à moi. On a le portrait de Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Pierre, ta foi va défaillir. Hein? Non? J'ai prié pour toi. afin que ta foi ne défaille pas. Il reste une petite flamme à l'intérieur du cœur qui ne s'éteint pas, qui est inéteignable. Hein? La foi qu'on a en Dieu, il va se passer quelque chose. Si on gratte comme il faut, là, dans le fond du cœur d'un chrétien, on va trouver cette foi inéteignable, cette espérance contre toute espérance. Ça a été planté dans notre cœur. Et c'est les deux autres versets, c'est Jésus qui est actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il... Est-ce qu'on peut voir ce portrait-là dans le ciel? Là? On ouvre le star, là. On voit dans le ciel et qu'est-ce qu'on voit? Jésus à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier pour toi. Il est en train d'intercéder pour toi auprès du Père. Hein? C'est la même chose en hébreu, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus, la raison pour laquelle je suis encore là, la raison pour laquelle tu es encore là, la raison pour laquelle Pierre persévère, puis est fidèle, puis est encore là, c'est que Jésus est en train d'intercéder pour toi, pour moi. Gardons cette image-là dans notre tête de Jésus. Alors, dimanche des rameaux, comme en conclusion, le dimanche des rameaux, qu'est-ce qu'on célèbre? Oui, on célèbre le roi. Avec ce qu'on a vu, on a-tu de quoi célébrer? Jésus a pleuré sur Jérusalem, il a même pleuré sur ses disciples qui l'ont abandonné, qui l'ont trahi. Alors, il y a un côté négatif, il y a un côté réaliste. On célèbre la grande difficulté d'avoir confiance en Dieu. Ce que j'ai comme image, là, un peuple qui célèbre dans la joie et qui allait renier, abandonner, trahir ce roi-là qui venait. Difficulté de croire. Et la grande fidélité de Dieu. La fête des rameaux, pour moi, c'est on célèbre la fidélité de Dieu. Comment Dieu est fidèle malgré toutes nos manquements, malgré toutes nos défauts, nos lacunes, mettez-en. Dieu est fidèle. Dieu allait sauver ce peuple-là. Dieu allait mourir pour les infidèles. Tous ces infidèles-là. Dieu est mort pour nous. Les gens de peu de foi, de petite foi. Et c'est le principe, c'est un verset bien connu. C'est par, premièrement, par la grâce. Par pure grâce que je suis sauvé. C'est par pure grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi. C'est pas la foi qui sauve, entre guillemets. C'est Dieu qui sauve. C'est le sacrifice de Jésus qui sauve. C'est la foi en ce Dieu-là et la foi en ce sacrifice-là qui sauve. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Si on est encore ici, mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Hosanna, ça veut dire sauve-nous, t'en supplions. Hein? De grâce, sauve-nous. De grâce, sauve-nous. Est-ce qu'on crie grâce? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? C'est le dimanche des rameaux. Seigneur, viens au secours de ma petite foi. Seigneur, viens au secours de mon infidélité. C'est qui cette gang-là? C'est l'Église triomphante, l'Église qui est déjà rendue au ciel. Hein? Et qu'est-ce qui se passe au ciel? On lève le star encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit? Je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Hein? Célébraient la célébration, la joie. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Il y a eu une invasion à Jérusalem cette journée-là. Hein? Jésus devait mourir sur la croix. Mais à partir de là, c'est là qu'il a pu établir son règne. Et chaque personne maintenant qui meurt dans le Seigneur se ramasse avec cette gang-là au ciel qui sont en train de louer le Seigneur, qui sont en train de célébrer le Seigneur, de dire, je ne sais pas comment le dire en hébreu, mais Dieu a sauvé, c'est fait, c'est accompli. Hein? Hosanna, Dieu a sauvé son peuple. Dieu est en train de sauver son peuple. Ça a marché, l'invasion de Jérusalem. Ça a produit du fruit. Et la preuve, c'est que nous sommes là 2000 ans plus tard. Et c'est encore se répandre. Et on peut se joindre à nos amis. Vous avez des gens qui sont décédés. Il y a des gens dans cette église qui sont décédés. Ils sont déjà dans cette foule. On a des gens qu'on a connus, qui sont morts maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font en attendant? Glorifie le Seigneur. Hein? Il glorifie le Seigneur. Et on peut se joindre à cette multitude qui est déjà en train de célébrer dans le ciel. Et c'est pas fini. Ça finit bien. Hein? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Une entrée dans la nouvelle Jérusalem. Hein? L'esprit et l'épouse disent. Hein, Daniel? L'esprit et l'épouse disent. Viens, que celui qui entend, c'est qui ça? C'est nous. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ça finit en beauté. Hein? Jésus est entré dans Jérusalem. Il allait être crucifié. Il allait mourir sur la croix. On ne pouvait pas célébrer encore. Mais Jésus l'a fait, puis à partir de ce moment-là, il est dans son règne. Et nous faisons partie de cette procession-là. Nous entrons dans le règne de Jésus-Christ. Puis on peut crier, Hosanna, viens, viens, de grâce, Seigneur, sauve. Viens, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ranimons ce, hein? Ensemble, en gang, quand on chante, là, on ranime notre foi. On a besoin les uns des autres, on a besoin de mettre notre petit grain de foi, là, toute la gang ensemble, notre petite étincelle de foi, puis on va allumer un beau feu. J'ai besoin de ranimer cette foi-là, qui est si petite, qui est si défaillante. Le Seigneur peut déplacer des montagnes. Dans ma propre vie, y a-t-il des choses que je crois que le Seigneur ne peut pas faire? Beaucoup. Ah, pour être honnête, là, je peux le dire, mais c'est ce que j'y crois. Et même si j'y crois pas, la petite lame brûle dans le fond de mon cœur. Elle ne s'éteindra pas parce que c'est Jésus qui l'a mis là. Seigneur, je crois. Viens, Seigneur Jésus. Viens accomplir ton travail dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de l'Église, dans la vie du quartier ici, dans la province de Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. Viens, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu dirais si on le chantait?